Bonjour à tous. Plaisir de voir plein de visages connus et des visages visiteurs. Plaisir de vous voir. En tout cas, que chacun puisse se sentir à l'aise ici. Alors, au début des années 70, Michel Polnareff chantait « On ira tous au paradis ». Combien de gens connaissent cette chanson? Surtout les gens qui ont plus de 30 ans en France, c'est obligé qu'ils connaissent cette période. Mais combien croient vraiment aux paroles de ce chant? Ce chant pose quand même des questions. Et nous allons en soulever quelques-unes aujourd'hui. À la même époque, John Lennon, un des chanteurs des Beatles, avait chanté et écrit la chanson Imagine, qui a connu un succès encore plus grand dans tout le monde. Et dans cette chanson, il invitait les gens à imaginer qu'il n'y avait pas de paradis, pas d'enfer, pas de Dieu, même pas de pays ou de possession ou quoi que ce soit. À première vue, ces deux chansons semblent s'opposer, dire le contraire l'une de l'autre. L'une postule qu'on ira tous au paradis, et l'autre, qu'il n'y en a pas. Et pourtant, il y a vraiment une cohérence, un fil conducteur entre ces deux chansons. Toutes les deux cherchent une certaine émancipation par rapport à une vision du monde structurée par la présence de la religion, qui est encore assez présente avant mai 68. Et donc il y a tout ce mouvement de vouloir s'émanciper par rapport à l'autorité d'un Dieu. Il est interdit d'interdire ni Dieu ni maître, le second qu'on a pu connaître. Et donc Polnareff et Lennon, chacun à leur manière, militait pour une sorte de révolution culturelle. Alors aujourd'hui, de tels combats pour ou contre le paradis peuvent paraître moins présents dans nos sociétés. C'est même presque saugrenu de se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, dans notre contexte actuel, cette idée de rejet de Dieu, du paradis, etc., c'est presque quelque chose qui est acquis dans notre pensée contemporaine. Et oui, les 68 heures ont eu des enfants, et ont maintenant même pour beaucoup des petits-enfants, qui sont complètement étrangers à ce mode de pensée d'avant. Et aujourd'hui, même si on fuit au maximum la pensée de la mort et de ce qui s'ensuit, on est fatalement confronté à sa réalité. On ne peut pas y échapper. Et un jour ou l'autre, on se pose quand même tous un peu ce genre de questions. Mais ça reste un sujet tabou. Est-ce que vous parlez souvent de la mort, de l'enfer, du paradis, au café avec vos collègues? Alors à l'église de soir, nous avons voulu remettre ces sujets un peu au bout du jour, et c'est pour ça qu'on a fait cette série pendant le mois de mai sur ce qu'on appelait les questions d'éternité. Manu l'a dit, au début du mois, c'est Sylvain Romerowski qui a commencé avec une question d'ordre général. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et il y a deux semaines, Manu lui-même a parlé de l'enfer. Alors si vous avez raté ces deux messages, vous pouvez vous rattraper en allant sur notre site internet. J'ai mis une copie d'écran pour que vous voyez qu'il est tout beau. Et on a une super pratique pour écouter ou télécharger les messages que vous avez ratés et même les partager sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, moi j'ai la joie et l'honneur de parler du dernier volet de la série, le paradis. Alors cette semaine, dans ma lecture personnelle de la Bible, pendant la première épître de Pierre, j'ai été frappé par l'importance de l'espérance dans la vie du chrétien. L'espérance d'une nouvelle vie, d'un héritage impérissable, l'espérance du salut, etc. Et par conséquent, c'est vraiment important qu'on tourne notre attention vers la perspective de l'éternité. C'est une caractéristique d'ailleurs qui va nous différencier de la pensée ambiante du monde, comme on dit dans le jargon. Si on n'a pas d'espérance, c'est tout à fait logique d'éviter de se poser la question et d'éviter le sujet. Mais pour nous qui sommes croyants, pour nous qui sommes chrétiens, nous pouvons regarder les choses en face, non seulement nous poser les questions, mais même contempler cette espérance qui est celle des chrétiens. Alors au menu ce matin, je vous propose qu'on essaie de répondre aux quelques questions suivantes. Y a-t-il vraiment un paradis? Si oui, qu'est-ce que c'est? Et puis, à quoi ça ressemble? Et qu'est-ce qu'on va y faire? Et enfin, comment y est-ce? Alors, John Lennon voulait nous faire imaginer qu'il n'y a pas de paradis. Et moi, je préfère vous faire imaginer qu'il y en a. Mais à quoi ça sert d'imaginer? On peut imaginer ce qu'on veut, ça ne changera rien. Ce qui compte au final, c'est ce qui existe en vrai. Et ce serait tellement si toutes les questions métaphysiques, comme l'existence de Dieu, la vie après la mort, le paradis, l'enfer, tout ça, ce serait beaucoup plus simple si on pouvait démontrer avec des démonstrations mathématiques. Encore que parfois ça peut aussi faire mal à la tête. Mais au moins, on serait fixé sur l'absurde. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. On arrive donc forcément, nécessairement, dans le domaine de la foi. La foi en l'existence de Dieu, du paradis, tout ça, ou la foi en leur inexistence. C'est aussi de la foi. Et on a tendance à vouloir l'oublier. On oppose la foi et la raison, mais là, on n'est pas en train d'opposer la foi et la raison. On oppose deux. Je préfère moi-même assumer le fait d'être croyant plutôt que de croire que je ne crois en rien. Alors certes, ça peut sembler plus juste, plus humble, plus honnête de dire « Ah, je sais pas, je ne crois pas, je sais pas. » Mais ce n'est pas tellement le problème de savoir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on croit, quelle est notre position par défaut, même si on n'ose pas trop se mouiller. Et cette position par défaut aura des implications de notre manière de vivre, dans les choix qu'on va faire dans la vie. Alors face à cette question de l'existence du paradis, il faut donc nécessairement nous positionner. Mais comment ? Comme des millions de personnes avant moi, en même temps que moi, après moi encore, j'imagine, je crois en Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu, et je crois que ce qu'elle dit est fiable. Alors c'est pas juste mon credo, la confession de foi que j'ai dû répéter au moment de mon baptême, comme Charline et Marie-Claude ce matin, mais c'est une conviction qui est grandissante dans ma vie, qui se nourrit des découvertes que je fais tous les jours ou régulièrement en lisant, en étudiant la Bible. Je m'émerveille de la pertinence du message biblique, de la cohérence de ces textes qui ont été rédigés sur des milliers d'années en plus. Je m'émerveille aussi de voir le nombre de prophéties qui se sont déjà accomplies. Et je suis conforté dans la confiance que j'ai dans la Bible. Or, qu'est-ce qu'elle dit cette Bible? Pour toutes ces questions de vie après la mort, il n'y a aucun doute qu'il y a bien quelque chose, et non seulement quelque chose, mais même deux options. Avec ou sans Dieu. La joie, la tristesse. Alors, à ce stade, je ne vais pas vous bombarder de références bibliques, on va en voir quelques-unes après, mais simplement pour vous dire que la Bible parle clairement qu'il y a un paradis. Alors, en plus de cet argument, basé sur la fiabilité de la Bible, j'ajouterai un argument plus subjectif et discutable, et je vais faire appel à une sorte de nostalgie. Les auteurs bibliques, l'Ecclésiaste, dit que Dieu a mis dans le corps de l'homme la pensée de l'éternité. Alors même si dans la suite de ce verset, il dit que l'homme ne peut pas tout comprendre pour autant de l'œuvre de Dieu, mais quand même, il y a comme une aspiration secrète à se projeter au-delà de la mort, au-delà de la finitude de notre existence sur Terre. Et peut-être que si on pense naturellement à quelque chose, une vie après la mort, est-ce que ce ne serait pas qu'on a été créé, programmé avec une idée de cette chose-là, comme une nostalgie? Et ne serait-ce pas un indice pour nous amener à chercher, à en savoir plus, à en connaître plus, même si ça nous dépasse? Ma dernière remarque, avant de passer à la question suivante, c'est de dire que je pense que le choix qu'on va faire pour croire en quelque chose ou croire en le contraire, va être intimement lié à la représentation qu'on s'en fait. Pour prendre un exemple, si je me représente le paradis comme un nuage habité par des anges béats jouant de la harpe, ou comme le monde des bisounours, comme ça, eh ben non, je ne crois pas au paradis. C'est ça. Donc, vient la question de chercher à savoir s'il y a un paradis. Qu'est-ce que c'est exactement? Et on va déjà voir si c'est plus plausible ou pas. On est à notre deuxième question. Qu'est-ce que le paradis? Alors commençons avec le vocabulaire qui est utilisé dans la Bible Et dans notre traduction française, en fait, le mot paradis lui-même revient très peu. Trois fois dans l'Ancien Testament, trois fois dans le Nouveau. Et que ce soit le mot hébreu pardès ou le grec paradeisos qui a été traduit par paradis, on reconnaît, pas moi, les commentateurs reconnaissent une racine de l'iranien ancien, peut-être on peut dire de perse, ou de perse, on ne sait pas, pour un mot qui voulait désigner un jardin entouré de la mer. Paradis, un jardin entouré de la mer. Par extension, c'est devenu un jardin royal ou impérial, un lieu magnifique où l'on peut se prélasser. Et on arrive vite à l'idée qu'on connaît peut-être un peu plus d'un endroit magnifique et agréable dans lequel on aimerait se projeter après la mort. Pour en revenir aux mots qui sont utilisés dans la Bible, on va retrouver beaucoup plus souvent, en fait, le mot ou des mots qui tournent autour de ciel. Au pluriel aussi, les cieux, ou le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, ou le royaume tout court. Alors, cette deuxième idée, qui est du coup plus fréquente, on va la comprendre par analogie. Alors, au sens littéral, physique, le ciel, c'est tout ce qui est au-dessus de notre tête, c'est tout ce qui dépasse la composante matérielle qu'on voit terrestre. Okay. Et de même, au sens figuré, le ciel est utilisé pour désigner tout ce qui n'est pas terrestre de notre monde, on peut dire le monde spirituel. Et dans la Bible, le mot ciel correspond à là où on représente que Dieu se situe. Même si par ailleurs on dit que Dieu est partout. On n'est pas en train de dire oui, il est au ciel, au troisième nuage à droite en sortant, c'est ça. Et c'est là où est Dieu. Alors, en combinant ces deux idées, paradis et ciel, on a l'idée à la fois d'un endroit agréable et raffiné, où on a envie d'être, et celle de la présence de Dieu, et en fait le besoin de Dieu. Et on va y revenir. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose d'intéressant. Ce qu'on peut voir dans la Bible, c'est une sorte de progression entre trois types de paradis. Vous savez bien qu'il y a trois paradis. Le premier paradis que l'on trouve dans la Bible correspond à ce qu'on va appeler le paradis originel. Alors, vous me direz que le mot paradis n'est pas du tout utilisé dans la Genèse, mais il est clairement écrit au chapitre 2 que Dieu a planté un jardin en Éden. Et la description de ce jardin est clairement idyllique. Tout est beau, bon à manger, on a envie d'y être. Et l'autre caractéristique de ce jardin, et qui fait écho plutôt à la partie ciel, c'est que Dieu est présent. C'est donc bien un paradis, même si le mot n'est pas utilisé. Et on peut noter au passage que ce paradis-là se déroule clairement sur Terre. C'est le récit de la création de la Terre. C'était le projet initial de Dieu à la création, l'état initial de son projet. Mais malheureusement, suite à la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont mangé le fruit défendu, l'homme a été chassé de ce paradis. Et tout ce que nous connaissons maintenant, c'est une terre abîmée, malade, qui est atteinte par la mort, par la souffrance, par le péché, ce qu'appelle la Bible. Et on peut garder une sorte de nostalgie de ce paradis perdu. Et on ne peut que avoir un regret. Deuxième paradis, qui est évoqué dans la Bible, cette fois-ci le mot utilisé, correspond à la destination des âmes après la mort. En tout cas, les âmes qui sont restées proches de Dieu ou qui sont considérées comme justes. Alors, je vais prendre un exemple frappant d'un texte connu. Quand Jésus est sur la croix, il y a deux brigands à côté de lui, un qui se moque de lui et l'autre qui reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, qui reconnaît qu'il va régner. Et Jésus lui dit tout de suite, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, ce texte pose plusieurs questions, on va reprendre certaines plus tard, mais ce que je veux simplement relever maintenant à ce stade, c'est que Jésus parle d'un paradis immédiat après la mort, où il y aura Jésus et ce brigand, mais il n'en parle pas du tout pour l'autre brigand, donc on s'imagine que ce n'est pas un paradis pour tous. Désolé à Michel Benarac. Or, notre petite précision, comme nous le dit la suite de l'histoire de l'Évangile, Jésus va ressusciter, mais seulement trois jours plus tard. Ça veut dire qu'au moment, aujourd'hui, où Jésus entre dans le paradis et donc se brigand avec lui, il est mort, enfin il sera mort et pas encore ressuscité. Donc on parle d'une destination pour notre âme entre notre mort et avant une résurrection. Je reviendrai là-dessus après la résurrection. Donc, ce paradis-là, ce paradis qu'on va appeler temporaire, ne va pas correspondre au projet final de Dieu, je vais vous décrire juste maintenant, mais correspond à un état intermédiaire. Et je vous invite vraiment, si vous avez raté la conférence au Sylvain Romeraski au début du mois, de la réécouter où il nous parle un peu plus de cet état intermédiaire qu'il y a après la mort. Alors, on arrive maintenant à ce paradis final. Notre existence ne va pas se figer indéfiniment dans une existence éthérée, intermédiaire, etc. Mais la Bible parle clairement de résurrection. Alors juste pour prendre un exemple, dans le Nouveau Testament, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, où il leur dit, au sujet du retour de Christ à la fin du monde, « On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort. » Et le mot, dans d'autres traductions, le mot « résurrection » est clairement utilisé. Je vous amène encore plus loin dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre-là, il fait fantasmer beaucoup, mais le but premier de ce livre, c'est de donner une perspective globale du projet de Dieu pour l'humanité, pas que parler de la fin, mais entre autres, un des buts principaux, c'était de donner aux chrétiens, aux lecteurs de cette lettre, une espérance, de nourrir leur espérance dans ce qui leur est réservé. Alors, bien sûr, il y a des persécutions. Aujourd'hui, on en voit encore, mais les chrétiens à l'époque aussi, à qui Jean écrivait, étaient persécutés par le régime en place. Il voulait leur montrer que derrière persécution, il y aurait la délivrance de ces persécutions. Il y aurait un jugement pour les impies et une délivrance pour les justes. Et cette espérance, elle se matérialise dans ce paradis final. Et donc les derniers chapitres de l'Apocalypse sont en fait une vision ou des visions de ce paradis final. Et au chapitre 21, donc Jean voit un ciel nouveau, une nouvelle terre. Il voit donc ce nouveau paradis qui prend la forme d'une ville. Une ville magnifique, la Nouvelle Jérusalem, la ville où Dieu habite. Et cette ville qui descend, dans cette vision, qui descend sur terre, elle est pleine d'or, de pierres précieuses. Elle brille de la gloire de Dieu qui rayonne toute la ville, il n'y a même pas besoin de lumière. Et on y retrouve certains éléments du paradis initial, en fait. Déjà, le fait que Dieu soit présent, mais aussi, il mentionnait l'arbre de vie qui était déjà présent au jardin d'Éden. Par contre, heureusement pour nous, il n'y aura plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est réglé, c'est fini. Alors, on n'a pas le temps de tout lire ensemble, mais je vous invite vraiment à lire les deux derniers chapitres de l'Apocalypse. Deux derniers chapitres de la Bible, en fait. C'est tellement beau de voir cette vision de ce nouveau ciel, de nouvelle terre, qui sont sur le paradis. Alors, on va tout de suite passer à la question suivante. À quoi ressemble le paradis ? Alors, d'abord, une petite observation, une petite remarque. C'est normal de se poser ce genre de questions. C'est intéressant, on veut savoir à quoi ça va ressembler. Et pour les chrétiens, c'est bien de nourrir notre espérance. Ça va nous aider à tenir bon, tenir jusqu'au bout. Mais j'aimerais quand même nous mettre en garde contre l'envie qui est naturelle pour nous de vouloir spéculer et de vouloir chercher trop de détails, de tirer, lire entre les lignes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mais alors ça va quelle taille la vie, etc. Voilà. Soyons prudents sur les spéculations qu'on peut faire. Quand on regarde ce que dit la Bible, finalement, il n'y a pas tant de détails que ça, ou alors ils sont donnés de manière imagée, par des visions, un texte poétique. On n'a pas un reportage documentaire comme on verrait sur TF1 ou France 2, je ne vais pas faire plus. Et donc, moi je suis poussé à l'humilité de ne pas raconter trop de choses, trop détaillées là-dessus, parce que j'ai arrêté. Mais la Bible nous donne quand même des indices, et plutôt que s'intéresser à ce que la Bible ne dit pas, je propose qu'on retienne au moins ce qu'elle dit. Quelles sont les grandes idées qu'il faut qu'on retienne? Alors, qu'avons-nous besoin de savoir de ce qu'est le paradis? Je vais commencer. Première chose, et le plus important, c'est que nous serons dans la présence de Dieu et que nous contemplerons sa gloire. Deuxième chose, c'est que ce sera beau, ce sera magnifique, à tel point qu'on ne pourra pas s'en lasser. n'arrive peut-être pas à se le représenter aujourd'hui, mais ce sera bon. On retrouvera des éléments de notre terre. On aura un corps ressuscité. On sera sur une terre renouvelée, ressuscitée, une nouvelle terre. Et il y aura une continuité, en fait, dans le projet de Dieu. Depuis ce paradis initial et ce paradis final. Il y a une continuité. Dieu n'a pas changé de plan. C'est juste qu'entre-temps, le plan a été contrecarré par la survenue du péché. Les chrétiens formeront un peuple, un corps uni. L'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens de tous les temps, est présentée dans la Bible comme une épouse qui va être unie, qui va se marier avec le Christ. Et en fait, dans le paradis, dans les visions qu'on a dans l'Apocalypse, on a cette image d'un mariage, des noces entre l'Église et le Christ. Qui dit mariage, dit fête. Le paradis, ce sera la fête. Et enfin, les bons témoins, le paradis, il n'y aura aucune trace du mal, du péché, plus de souffrance. J'ai juste envie de lire un extrait de cette vision de l'Apocalypse en chapitre 21, qui dit « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil. Était autrefois a définitivement disparu. C'est très joli tout ça, mais ça ne nous empêche pas quand même de se poser des questions. L'éternité, c'est long quand même. Qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? On ne risque pas de s'ennuyer au bout d'un moment, hein. Bon, c'est bien joli. Moi je me souviens que quand j'étais enfant, ça m'arrivait de me réveiller en panique au plein milieu de la nuit et d'appeler mes parents au secours. Parce que j'étais paniqué à l'idée de l'éternité. Je savais, oh, mais après, mais non, il n'y a pas d'après, mais si, mais après. Et je buguais complètement dans ma tête. Mes parents venaient, expliquaient. Et ce qu'on peut juste comprendre à ce stade, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout comprendre. Notre système d'exploitation, notre logiciel dans notre tête, il n'est pas assez élaboré pour emmagasiner toute la puissance de l'éternité. Et on aura un nouveau système d'exploitation dans notre nouveau corps. Pour pouvoir appréhender tout cela. Tout ça pour dire que il ne faut pas qu'on s'inquiète de ne pas réussir à comprendre comment sera l'éternité, il ne faut pas qu'on s'inquiète de s'ennuyer, parce que si on est dans un monde parfait, il n'y a plus aucun mal, plus aucune trace de quoi que ce soit, comment pourrait-il y avoir de l'ennui? On oublie cette idée d'ennui, on ne va pas s'ennuyer, je vous rassure. Faisant confiance en Dieu, ce sera génial. Alors, on arrive à notre quatrième question. Comment y accéder? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais juste souligner ce qui est entendu, sous-entendu, pardon, derrière cette question. C'est qu'on n'ira pas tous au paradis. Désolé, Michel Panareff, encore une fois. Dans l'épisode du jugement dernier, raconté par l'évangéliste Matthieu, Jésus, après avoir accueilli ceux qui se tenaient à sa droite, qu'il appelle les brebis, en les invitant à prendre possession du royaume, je n'entrais pas dans la main, s'adresse à ceux à sa gauche, les boucs, en leur disant Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et les anges. On ne dira pas tous au paradis. Alors, comment y accéder? Le suspense est à son compte. Et une fois les pertes fusées, je ne vais pas commencer en vous donnant la bonne réponse, mais je vais commencer avec la mauvaise. Dans beaucoup de systèmes de pensée, l'accès au paradis se mérite. Il faut gagner son paradis, que ce soit dans d'autres religions ou même dans certaines branches du christianisme. On va retrouver cette idée qu'à la fin de notre vie, nos bonnes œuvres, nos mauvaises œuvres vont se retrouver dans une balance. Et en fonction du poids relatif, ça va pencher d'un côté. Et si c'est bon pour nous, on ira au paradis, et si c'est mauvais pour nous, on ira en enfer. Dans le catholicisme et dans l'islam, on retrouve même certaines doctrines qui disent que si on passe pas au premier tour, à ce moment-là, mais qu'on était croyant ou que ce soit, on va purger notre peine pendant une période transitoire, et au bout d'un moment, quand on aura purgé cette peine-là, allez, on sera empêché, on va quand même rejoindre les autres au paradis. Tout ça relève d'une logique qu'on va appeler rétributive, c'est-à-dire c'est-à-dire d'une punition-récompense. On va retrouver cette même logique rétributive dans les religions orientales, qui, si elles ne parlent pas vraiment de paradis et d'enfer, vont parler de réincarnation dans une vie ultérieure, plus ou moins agréable en fonction de ce qu'on aura mérité, de la manière dont on aura vécu notre vie. Et l'idéal, l'équivalent plus ou moins d'un paradis, ce serait d'atteindre le nirvana, et qui, si j'en crois à Wikipédia, est une sorte de béatitude extrême découlant de l'extinction. Cette idée, en fait, elle ne nous choquait peut-être pas tant que ça. Plutôt bien, plutôt mal. Et c'est quoi le problème de cette conception? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas gagner ou mériter son paradis? Je vais dire que c'est une question de prendre au sérieux la sainteté de Dieu. Comme je l'ai dit, le paradis ou le ciel, c'est être dans la glorieuse présence de Dieu, qui est parfaitement saint, pur, propre, qui ne supporte pas d'être sali par la moindre chose, par le moindre mal, par le moindre péché. On est dans une logique de la sainteté absolue. Or, dans notre logique de la balance, on est dans une logique de bien relatif. C'est plutôt bien, mais... Et le problème dans cette balance, c'est que même si ça penche du bon côté, s'il y a quelque chose sur notre plateau, c'est signe qu'il y a de l'imperfection. Et cette imperfection-là, elle est purement et simplement intolérable. Ça suffit pour se faire bloquer par le videur à l'entrée du paradis. Non, ça va pas être possible. J'ai une petite image. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Rome, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et plus loin, il leur dit, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Par conséquent, selon la logique de la rétribution, on mérite tous d'aller en enfer. Personne ne peut mériter d'aller au paradis. Donc, il vaut mieux qu'on oublie cette logique-là de la rétribution. Enfin, on arrive à la bonne réponse. Et on va voir tout de suite dans la suite des deux versets que je viens de citer, la bonne réponse. Donc, après avoir dit que tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, on peut voir que, mais ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Plus loin, car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. La bonne réponse, donc, c'est qu'on ne peut accéder au paradis que par la grâce, en recevant un don gratuit, un cadeau. Et ce cadeau, il est donné par Jésus-Christ, dans l'union avec lui. On ne peut revendiquer aucun mérite. Alors, à la fin de sa vie, peu avant d'être arrêté et d'être crucifié, Jésus a passé une soirée avec ses disciples, et lors de cette soirée, qui est un peu son testament, il leur donne ses dernières consignes, il leur dit entre autres, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Personne ne peut aller au ciel ou ne peut aller au Père autrement que par moi. Pourtant, si on avait un seul qui pouvait mériter d'aller au paradis, c'est bien Jésus. Parce que lui, du côté de la balance des mauvaises œuvres, il n'y avait vraiment rien. Donc lui seul a la légitimité de se présenter à l'entrée du paradis. Et ce qui se passe, c'est que maintenant qu'il a cette légitimité-là, si on est avec lui, quand on se retrouve devant le videur qui nous dit « Je suis désolé, ça ne va pas être possible », il nous dit « Si, là, s'il est avec moi. » C'est un peu ça, mais... L'évangéliste Jean, toujours lui, à la fin de son évangile, dit quel était l'objectif, tout simplement. Pourquoi il a écrit tout cet évangile? Et il dit « Ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » C'est ça la bonne réponse. Croire en Jésus-Christ. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Croire qu'il règne, qu'il va régner. Et quand on a vu cette bonne réponse, on comprend mieux maintenant pourquoi Jésus a pu dire au brigand, vraiment je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. À ce stade, il ne lui restait plus que quelques heures ou minutes au brigand, qui n'avait plus le temps de rééquilibrer la balance de l'autre côté. En plus, il partait loin. La seule chose qu'il avait le temps de faire, c'était de croire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu. Il a cru qu'il allait régner. Alors, peut-être que cette réponse, que j'ai dit être la bonne, vous choque et vous dérange. Et du coup, j'ai peut-être du mal à y croire. Ça a l'air trop facile. Ça a l'air injuste. Pourquoi même ce brigand ? C'était sûrement un terroriste. Pourquoi lui aussi ? Pourquoi il n'en parle ? Il faut simplement se rendre à l'évidence que la logique de la rétribution est complètement incapable de nous faire accéder au paradis. Notre seule chance, c'est d'être justifié par Jésus, de recevoir et d'accepter ce carton d'invitation. Alors, si votre sentiment d'injustice persiste, rassurez-vous, contrairement au faux procès qu'on a beaucoup fait au christianisme, il ne s'agit pas pour autant de dire que nos œuvres n'ont pas d'importance, c'est la fête, on fait ce qu'on veut, tant pis, on demandera pardon à la fin, et hop, ce sera bon, on croyait en Jésus, tout ira bien, et on n'aura rien fait. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Parce que si on croit vraiment Jésus, on ne peut pas tenir un tel discours, on ne peut pas raisonner comme ça. Croire en Jésus transforme nos vies. Ça nous fait détester le mal, ça nous fait aimer le bien. Et je reviens à l'épisode du jugement dernier que j'ai évoqué tout à l'heure, où on voit que Jésus reconnaît les siens, ces fameuses brebis, on voit qu'il les reconnaît par les œuvres bonnes qu'ils ont pratiquées. Ce n'est pas que ces œuvres leur donnent le mérite, c'est que c'est un signe distinctif. C'est comme un mère de famille, hein, je la connais, c'est mes enfants, ils me ressemblent. On est transformé par Jésus-Christ. On va produire ces œuvres-là, pas pour mériter quelque chose, mais parce que c'est notre nouvelle ère de famille. Alors, on va conclure maintenant, et on va se demander si on a avancé depuis ces questions initiales que nous ont fait nous poser Michel Bonnareff et John Hebel. Alors, première question, c'était, y a-t-il vraiment un paradis ? La Bible répond clairement oui, et peut-être notre intuition aussi, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, il faut qu'on se pose la question de à quoi on va croire, puisqu'il faut croire dans un sens ou l'autre. Deuxième question, qu'est-ce que le paradis ? Le terme paradis lui-même évoque un jardin de délices, le concept du ciel, tout ce qui va autour, désigne le lieu immatériel de la présence de Dieu, et la synthèse des deux nous montre un lieu de délices, où l'on est dans la présence de Dieu. Ça évoque à la fois le jardin originel en Éden, le paradis final qui nous est décrit dans l'Apocalypse, et entre les deux, un avant-goût est déjà proposé aux croyants qui sont morts dans l'attente de la résurrection. Troisième question, à quoi ressemble le paradis et qu'est-ce qu'on y fait ? Alors bien que les descriptions qu'on en a relèvent plus d'un langage poétique que d'un reportage documentaire, on en sait suffisamment pour comprendre que c'est un lieu magnifique. On sera libéré du mal, du péché, de toutes leurs conséquences. Et donc on sera en plein émerveillement dans la présence de Dieu. Ça donne envie. Quatrième question, comment y accéder ? En fait, le plus difficile pour répondre à cette question, c'est de sauter de la tête cette idée de la balance. On ne peut pas gagner son paradis. Le seul endroit où notre mérite peut nous conduire, c'est l'enfer. Seule l'acceptation du carton d'invitation que Jésus nous donne peut nous permettre d'entrer dans le paradis. Ce matin, si vous êtes croyant, vous êtes un disciple de Jésus-Christ, mon objectif était de nourrir votre espérance, d'attiser votre attente languissante pour ce paradis, vivre l'éternité dans la glorieuse présence de Dieu, délivré de tout mal, de toute imperfection. Les amis, préparons-nous, ça va vraiment être la fête. On risque pas de s'ennuyer. Si au contraire, en arrivant ici ce matin, Dieu vous était étranger, si rien que d'entendre le mot paradis, ça faisait mal à l'oreille, ou ça vous faisait doucement sourire, j'espère au moins vous avoir fait réfléchir. Et je vous invite à ne pas vous en arrêter là dans votre réflexion, et de continuer à chercher la vérité. L'enjeu en vaut vraiment la chandelle. C'est une question de vie ou mort, en fait. Alors, on peut imaginer, comme vous y invitez John Lennon, qu'il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, pas de Dieu, tout ça. Mais imaginez qu'il y en ait un. Imaginez qu'il y ait un paradis. ne serait-il pas trop bête d'en être écarté par le videur alors qu'on avait reçu un carton d'invitation mais qu'on l'a jeté à un poubelle? Aujourd'hui, je n'ai rien à vendre, je n'ai pas d'action en ciel avec une commission sur le nombre de personnes qui y entrent. Mais je m'en voudrais à mort si je ne saisissais pas chaque occasion de prévenir chacun autour de moi que le paradis est à portée de main, ou plutôt à portée de foi. Je vous en supplie, prenez ce sujet au sérieux. Seigneur notre Dieu, merci parce que ton projet de la création était un projet magnifique, parfait. Merci parce que tu voulais que nous ayons accès, que nous vivions dans cette harmonie parfaite avec toi, avec que des belles choses, des bonnes choses. Et Seigneur, aujourd'hui, on est complètement blessé parce que ce projet a été gâché. Gâché par le péché. Et Seigneur, aujourd'hui, on subit les conséquences de manière plus ou moins directe. Et Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés dans cette situation-là. Merci parce que tu nous as tendu la main. Merci Jésus parce que tu es venu sur cette terre, que tu as accepté de mourir en sacrifice, de la mort la plus horrible, cette torture lente. Et merci aussi parce que tu as été plus fort que la mort, tu es ressuscité, tu nous as ouvert la voie, ouvert le chemin. Et je veux te remercier encore parce que tu nous donnes cette merveilleuse espérance de retrouver ce paradis qui nous était prévu. Merci parce qu'il nous est accessible simplement en croyant en toi. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous ce matin qui ont du mal à croire. Ça me paraît incroyable. Je te prie pour que tu les aimes. Je te prie pour que tu leur montres la voie, qu'ils puissent voir par eux-mêmes. Seigneur, tu es le Dieu qui te révèle. Tu t'es révélé à des gens les plus opposés possibles. Que chacun de nous puissions partager cette magnifique espérance d'être avec toi.